Bonjour à tous, je m'installe. Comme Lake vient de nous le rappeler, nous sommes dans l'épître aux Hébreux, une épître écrite par un auteur inconnu, dont les destinataires de la lettre sont des Juifs qui se sont convertis, qui ont reconnu Jésus-Christ et qui reçoivent cette lettre d'encouragement pour pouvoir leur montrer la supériorité de Jésus-Christ devant tout ce qu'ils ont pu voir et savoir, la supériorité de Jésus-Christ par rapport aux anges, par rapport à Moïse, par qui le peuple juif avait, le peuple hébreu avait obtenu la loi, la supériorité de Jésus par rapport au souverain sacrificateur, c'est-à-dire le grand prêtre, par qui, dimanche dernier, on avait pu justement avoir par Adrien, le fait que ce grand prêtre était la personne qui rentrait dans la présence de Dieu pour pouvoir demander et offrir en sacrifice pour que Dieu soit propice au peuple. Et en même temps, cette épître est aussi une épître qui interpelle, une épître d'avertissement pour ceux qui pensaient que Jésus-Christ était un ange, ou en tout cas le ramener à ce niveau-là, d'avertissement par rapport à ceux qui endurcissaient leur cœur et qui ne reconnaissaient pas qui Jésus était. Et ce matin, on aura un troisième avertissement sur lequel nous serons. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans le livre des Hébreux et nous lirons au chapitre 5 à partir des versets 11. Hébreux 5 à partir des versets 11. Nous avons quelques versets plus haut, justement, lorsqu'il est présent, Jésus est présenté comme étant grand souverain sacrificateur à l'ordre de Melchisédek. Et juste après, l'auteur nous dit « Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivés à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Chapitre 6, c'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude ou à se repentir, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Lorsqu'une terre arrosée de pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Ainsi la lecture de la parole de Dieu que nous partagerons ce matin. Un texte dense dans lequel, dans ce qu'on a lu, il y a justement cette remise en question et cet avertissement par rapport à ceux qui sont éclairés ou qui ont goûté. Et nous reviendrons justement dans ce passage. Mais avant cela, que je trouve le bon bouton. Merci. Nous allons parler justement ce matin du fait que nous sommes appelés à être matures en tant qu'enfants de Dieu, à pouvoir être ces personnes qui justement grandissent dans notre compréhension de qui il est et dans notre vie avec lui. Et nous allons voir cela en prenant trois points. Le premier étant le fait d'être un enseignant, de parler aussi de ce désir et cet encouragement qu'on a d'aller plus loin que juste les bases ou juste les fondements, comme on a pu le lire, et d'avoir du coup cette certitude sur notre salut en Christ. Salut qui se manifeste aussi par l'amour, l'espérance et la foi que nous sommes amenés à avoir. Donc commençons par ce premier point où on a cet encouragement à grandir, à être des disciples. Et le premier verset que nous lisons dans notre passage nous parle justement de l'auteur qui commence à parler de Jésus comme grand prêtre de l'ordre de Melchisédek et qui fait une pause. Une pause qui reprendra un peu plus tard dans le chapitre, à la fin du chapitre 6, au début du chapitre 7, parce qu'il se rend compte qu'il a besoin, il ne peut pas continuer, il a besoin justement de pouvoir expliquer qui est Melchisédek et de pouvoir avancer dans cet enseignement, mais de se rendre compte que son auditoire n'est peut-être pas à mesure d'entendre cela, de se rendre compte que son auditoire n'a peut-être pas justement la possibilité de comprendre. Mais le grand prêtre était justement, comme on disait tout à l'heure, cette personne qui rentrait une fois par an dans le lieu très saint pour pouvoir offrir un sacrifice à Dieu pour ses propres péchés d'une part et aussi pour ceux du peuple, pour que Dieu soit propice au peuple, pour qu'il y ait ce pardon des péchés et que Dieu continue justement à bénir le peuple. Et au travers de cette parenthèse, il leur parle justement de leur immaturité. Il commence par ce point par rapport au fait d'être enseignant. Et le premier point qui remonte, c'est qu'il leur parle du fait qu'ils sont lents à comprendre. Il met un peu en amont le fait que leur progrès spirituel n'est pas visible. Il les interpelle du fait qu'au lieu d'être des enseignants, ils en sont encore à être au lait. Lorsque nous allons dans une pharmacie, nous avons souvent, donc pour les bébés, donc des packs de lait de 0 à 6 mois, de 6 à 12 mois, et ainsi de suite. Et c'est donc normal pour des enfants ou des personnes qui, du coup, enfin des enfants, de pouvoir justement grandir et être nourris au lait. On prend la référence aussi par rapport à ceux qui se sont donnés au Seigneur et qui sont amenés justement à être nourris pour grandir dans une meilleure connaissance de qui il est. Mais assez rapidement, par rapport aux enfants, vient le temps de la diversification et où d'autres aliments sont introduits, où justement on n'en reste pas que juste au lait, mais d'autres aliments sont introduits. Et si ça n'est pas le cas, il y a un dysfonctionnement. Et si à 20 ans, une personne en est toujours collée, il y a vraiment un dysfonctionnement dans ce cas-là. Dans le domaine physique, cette réalité que nous venons de dire est la même d'un point de vue spirituel. Où, après le temps où on est nourri au lait, le désir de Dieu est que nous puissions grandir, que nous puissions saisir un peu davantage les vérités qu'il a dans sa parole, que nous puissions grandir et être des hommes et des femmes affermis dans ce qu'il nous déclare. Et ce qui n'est pas le cas par rapport à l'audience, par rapport à ces personnes, d'où cette interpellation de l'auteur. Alors, on peut se poser la question, que veut dire être enseignant? Parce qu'on a peut-être, on se dit, voilà, moi je ne suis pas trop enseignant. Alors un enseignant, la plupart du temps, l'image qu'on se donne, c'est la personne qui se trouve dans un amphithéâtre, comme vous voyez en haut à gauche. Pour ceux qui viennent de l'université de Caen, je ne sais pas s'il y en a, c'est un des amphithéâtres de l'université de Caen. Donc voilà, de se retrouver dans un amphithéâtre avec un enseignant qui a devant lui un auditoire et qui expose un cours et qui est amené à apporter un enseignement. Cela est vrai. C'est une manière aussi à laquelle un enseignement est apporté. Mais de la même manière que cela se fait dans un amphithéâtre, ça peut tout aussi être dans un petit groupe, pour ceux qui sont au fond. Donc, au fond, c'est un petit groupe de 4, de 5 personnes qui sont tout simplement en train d'ouvrir la parole de Dieu, de pouvoir prendre du temps à la lire avec une personne qui est amenée à conduire ce temps. Voilà aussi ce que c'est d'être enseignant. Il n'y a pas forcément cette recherche de connaissances poussées, avancées pour pouvoir le faire. Il y a ce désir surtout de pouvoir accompagner notre frère, notre sœur, une personne qui est en découverte du Seigneur, à pouvoir mieux comprendre qui il est. Notre vision d'Église a cette partie justement où on a ce désir d'accompagner chacun pour avancer dans sa compréhension de qui Dieu est. Et cela peut se faire dans un enseignement plus général, on ne va pas dire un amphithéâtre, mais plus au niveau de l'Église ici, lors des rencontres que nous avons, mais aussi dans des temps plus particuliers où une personne est amenée tout simplement à pouvoir parler de Dieu, à pouvoir avoir un mot d'encouragement pour la personne qui est avec elle. Et c'est cela aussi enseigner. Rappeler les vérités de Dieu. Rappeler les merveilles que nous avons en Dieu et pouvoir avancer et cheminer avec cette personne. Donc nous sommes tous appelés à devoir et à pouvoir le faire. Certes, le Seigneur donne à certains un don particulier de pouvoir enseigner. Mais en tout cas, cet accompagnement, nous sommes encouragés et nous sommes, oui, encouragés à le faire. Que nous ayons cela dans une des aspirations que nous avons. Mais pourquoi il est question d'enseignement en premier? Pourquoi habituellement on commence plutôt par être instruit, par apprendre, avant du coup de pouvoir enseigner? Bien, on est dans ce cadre-là par rapport à l'auteur de se rendre compte que ça fait, les personnes qui reçoivent cette lettre, ça fait plus un certain temps qu'ils ont justement reçu cet enseignement et qu'ils devraient être dans cette marche de pouvoir accompagner d'autres dans cette compréhension de qui Dieu est. Mais ce n'est pas le cas, d'où cette interpellation et d'où justement le fait de leur demander de pouvoir se dire « Comment se fait-il que vous en soyez encore au lait alors que vous devriez être des enseignants, alors que vous devez être des personnes qui puissent encourager et qui puissent interpeller ?» Aussi dans nos esprits, dans nos cœurs, que nous ayons ce désir de pouvoir le faire, ce désir d'être des personnes qui cheminent avec d'autres, avec peut-être notre voisin, avec peut-être une personne qui ne connaît pas du tout la parole, avec nos enfants, bien entendu, et que cela puisse être une occasion de tout simplement montrer le chemin vers celui qui est la lumière, comme nous avons pu le voir et l'entendre ce matin. Un autre des points, justement, où on a aussi cette interpellation est le fait de pouvoir, du coup, aller plus loin que juste les bases de l'enseignement ou juste les fondements dont il est question. Après cette interpellation sur le fait qu'ils devraient être des enseignants et qu'ils sont toujours au lait, malheureusement, l'auteur parle au chapitre 6, versets 1 à 3, je vous refais la lecture. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. L'auteur interpelle les destinataires de la lettre pour les encourager à voir plus loin que les fondements, plus loin que l'enseignement relatif au Messie. Et il cite ces différents fondements, le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, l'enseignement concernant les baptêmes. Ici, il est question plus des ablutions qui étaient faites, plutôt que du baptême de Jean-Baptiste ou du baptême que l'on a par le fait du coup de passer par les eaux du baptême lorsqu'on témoigne de l'œuvre de Jésus dans nos cœurs. Un autre des fondements dont il est question est l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. Et la compréhension qu'on a du coup de ce passage est du fait que ces fondements sont une base commune entre le judaïsme, d'où ces personnes venaient, et aussi ce qui est de la foi en Jésus-Christ. D'où justement le fait de pouvoir avoir et démarrer par ces fondements. Mais ce qui est important pour nous de noter, d'où cette interpellation de l'auteur, c'est que ces fondements-là qu'il a cités ne sont pas suffisants. Elles ne vont pas jusqu'à la déclaration de la toute suffisance de l'œuvre de Jésus-Christ. Elles ne vont pas jusqu'à la déclaration du fait que nous avons en Jésus-Christ le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père si ce n'est par lui. Ces fondements ne les amènent pas à être au point de faire ce choix radical de laisser les croyances du judaïsme pour pouvoir se tourner vers celui qui est la lumière, vers celui qui leur donne la vie éternelle, vers celui qui est venu mourir sur la croix pour eux et pour nous. Lorsqu'il est question du renoncement aux œuvres mortes, il s'agit des actions, de l'abandon des mauvaises actions qui conduisent à la mort et de se tourner vers Dieu. Donc c'est une vérité de l'Ancien Testament. Mais l'accomplissement complet de cette interpellation du renoncement aux œuvres mortes, se fait dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Car ce n'est pas juste la repentance, mais c'est la repentance dans et avec la foi en Jésus-Christ qui nous amène justement à pouvoir entrer dans cette pleine présence de notre Seigneur. Le deuxième fondement dont il est question est la foi en Dieu, qui, on le sait, est inefficace si cette foi n'est pas en cette foi, le fait de croire n'est pas en Jésus-Christ. En effet, la seule foi en Dieu qui est maintenant acceptable est celle en Jésus-Christ. Et nous avons ce passage dans le livre des Actes où il est question qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a été donné aucun autre nom sur la terre et parmi les hommes par lequel nous devions croire. Et ce nom, c'est celui de Jésus-Christ. Un autre fondement qui leur demande justement de mettre de côté les baptêmes, donc là il est question plus des ablutions cérémonielles qui sont maintenues et qui sont maintenant rendues caduques parce que nous avons une ablution spirituelle dans le sens où nous avons, par Jésus-Christ, le bain de la régénération. Ou derrière, par rapport à ce que Jésus a accompli à la croix, nous sommes maintenant lavés de nos péchés, une fois pour toutes. Nous avons à revenir à lui pour les confesser, bien entendu, pour que nous puissions rétablir cette communion. Mais combien nous avons cette assurance de savoir qu'en ayant mis notre confiance en lui, nous sommes lavés de nos péchés, car il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est aussi question, parmi les fondements, de l'imposition des mains, où là, il était question notamment lors des sacrifices dans l'Ancien Testament, où la personne qui apportait le sacrifice posait la main sur l'animal qui était sacrifié pour symboliser son identification à ce sacrifice. Mais l'auteur ici nous appelle à oublier cela, en tout cas de cette manière-là, cette imposition des mains par rapport à un sacrifice qui est commis, parce que nous avons maintenant pleine confiance en Jésus-Christ, lui, le sacrifice parfait, lui qui est mort une fois pour toutes, lui par lequel nous avons justement cette ouverture pour être dans la présence de Dieu. Et enfin, il est question justement de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et de la même manière, ces deux notions sont un petit peu abordées dans l'Ancien Testament, mais combien de voir dans la Nouvelle Alliance, dans ce que Jésus a accompli, il est celui qui est la résurrection et la vie. lorsque nous parlons de la résurrection des morts. Et il est aussi celui par lequel nous pouvons dire « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ ». Romains chapitre 8, verset 1. Et nous voilà, pour ceux qui ont reconnu qui Jésus est, dans cette possibilité de pouvoir être dans sa présence, de savoir qu'aucune condamnation n'est sur nous, et de savoir que nous avons en lui la vie et qu'il est cette résurrection. Prenons l'image ici d'un puzzle que vous voyez sur la gauche, avec en haut à gauche des petites pièces de puzzle. Ça, justement, cela représente un petit peu ces fondements qui étaient présents et par lesquels, lorsque nous lisons justement la parole au niveau de l'Ancien Testament, on voit justement ces fondements qui ont été posés. Et lorsque le Seigneur, par sa grâce, a assemblé ces fondements, nous ne voyons plus les petits fondements tels qu'ils sont. Ce que nous voyons, c'est ce qu'il a accompli, à savoir lui qui a réuni tout cela pour pouvoir avoir ce beau puzzle où on ne voit plus le petit détail, mais où on voit l'ensemble. Donc ici, la croix du Seigneur et ce qu'il a réalisé. Il est celui qui, justement, a joint tous ces morceaux de puzzle pour que nous puissions voir combien il est bon, combien il est merveilleux et combien ce chemin est ouvert. D'où cet encouragement de ne pas rester pour les auteurs, les destinataires de la lettre, à ces fondements qui étaient au départ ces petites pièces qui ont été préparées au fur et à mesure, mais de voir dans la réalisation de Jésus-Christ, de voir ce qu'il a accompli et de dire oui, nous sommes maintenant dans cette réalisation et de pouvoir lui rendre gloire par rapport à cela. Voilà cet encouragement pour aller plus loin que juste les bases. Et le dernier encouragement est celui d'être sûr de notre attachement à Dieu, celui d'être sûr de notre salut en Jésus-Christ. Je vous propose pour cela qu'on puisse relire ensemble au chapitre 6 des versets 4 à 12. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés. Il est impossible de les amener à une nouvelle fois à changer d'attitude ou à se repentir, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Lorsqu'une terre arrosée de pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Verset 9. Même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Ce passage est un des passages difficiles du livre des Hébreux, il faut le reconnaître. Et ce passage nous parle de l'apostasie. L'apostasie étant cet acte où quelqu'un ou une personne qui a fait profession de foi finit par renier Christ. Il ne s'agit pas d'un chrétien, une personne qui est tombée, qui, dans un temps, dans un péché, même si ce péché est grave, et qui finit par reconnaître cela, se répand devant Dieu, et cette communion est rétablie. Mais il s'agit d'une personne qui a fait profession de foi, et qui finit par renier le Christ. Et l'auteur est préoccupé, dans l'assemblée, en tout cas ceux qui reçoivent la lettre, par rapport à ce péché qui menace. Certains semblent avoir réduit Christ à un simple ange, on en parlait tout à l'heure, c'était le premier avertissement. D'autres semblent estimer que son sacrifice n'est pas suffisant et avaient ce désir de revenir au sacrifice qui était fait dans l'Ancienne Alliance. D'autres qui estimaient que son sang et ce qu'il avait accompli à la croix n'étaient pas suffisants pour justement nous permettre d'être dans la présence de Dieu. Et c'est cela qui est condamné par l'auteur aux Hébreux, d'où cette mise en garde. Et cette apostasie revient à pécher, en connaissance, en sachant ce que Christ apporte. Et du coup, de dire pour ces personnes qui le font, le sacrifice de Jésus-Christ n'est pas suffisant, que le sacrifice de Jésus-Christ est vain, malgré le fait qu'ils aient eu la connaissance, le temps de pouvoir saisir que c'est uniquement par ce sacrifice que nous avons accès à Dieu maintenant. Et on voit cet effet littéraire par rapport au texte où justement où on a cette liste de ceux qui ont goûté au don céleste, ceux qui ont eu part à l'Esprit Saint, ceux qui ont goûté à la parole de Dieu, ceux qui ont goûté aux puissances du siècle à venir. Mais à chaque fois, lorsqu'il est mention de ces personnes, il ne s'agit pas des personnes qui ont saisi par la foi véritablement qui Jésus-Christ est, qui se sont donnés à lui, qui lui appartiennent. Il s'agit des personnes qui ont pu, comme il est dit, goûter, mais qui n'ont pas pris à manger, j'ai envie de dire, on reste dans l'image de la nourriture, mais qui n'ont pas justement, au-delà de goûter, aller plus loin pour pouvoir s'approprier ce que le Seigneur a accompli. Et cet avertissement ici, pour des non-croyants au Christ, qui ont cette connaissance de ce que Jésus apporte, est quelque chose par lequel il est impossible de revenir, comme nous dit la parole, comme nous venons de le lire. Et c'est quelque chose qui nous est difficile par moment de pouvoir réaliser, de pouvoir le dire, de pouvoir le lire et de pouvoir s'arrêter en disant « Oui Seigneur, c'est ce que tu déclares ». Mais ici, il s'agit bien du fait des personnes qui ont eu la connaissance de qui Jésus est, de ce qu'il apporte, de comment il est à mesure de transformer les vies et de voir son appel de nous sortir de la boue de notre vie de péché pour que nous lui appartenons, pour que nous soyons capables de pouvoir ensemble et chanter bien avant la fondation du monde qu'il est celui qui nous a aimés en Jésus-Christ, que bien avant que nous ne venions au monde, il est celui qui connaissait nos jours et qui nous a donné le moyen de pouvoir être dans cette proximité avec lui. De pouvoir, pour ceux qui étaient là il y a 3 semaines et lors de l'étude biblique dimanche dernier, être dans le repos en Christ que le Seigneur nous accorde. Passage difficile, mais qui a des applications pour nous. Vous me direz, comment on passe de ce passage-là et pouvoir se dire être sûr de son salut en Christ? Eh bien, ce passage, même s'il y a eu des mauvaises interprétations, ne remet pas en cause notre salut. Ce passage ne parle pas de la possibilité de perdre son salut. Ce n'est pas ce que ce passage dit. Et la Bible, la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu, dans différents passages, nous parle justement que lorsque nous avons fléchi le genou devant le Seigneur, nous lui appartenons et que le salut que nous avons en lui ne nous sera pas repris. Il est celui qui a dit « Nul ne vous ravira de ma main ». Il est celui qui a dit que ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous arracher ou nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que nous puissions nous accaparer ces promesses, que nous puissions les vivre, que nous puissions avoir cette certitude de notre salut et que nous puissions de cette manière-là aussi pouvoir prier pour la révélation de Jésus-Christ dans les différentes occasions que nous avons de pouvoir annoncer qui il est. Une est par exemple le 14 décembre pour la fête de Noël, cette journée spéciale que nous aurons où des personnes vont être invitées, qui ne connaissent pour certaines pas qui le Christ est, et que nous voulons justement qu'elles puissent saisir, qu'elles puissent venir voir et goûter combien l'Éternel est bon, et ne pas juste s'arrêter au fait de goûter, mais de pouvoir aller dans leur cheminement, dans la souveraineté de Dieu, fléchir le genou devant lui et le reconnaître comme leur Seigneur. Cette interpellation nous permet aussi de nous interroger sur ce qu'on croit. Est-ce qu'au salut de Jésus-Christ, nous avons ce désir de rajouter quelque chose supplémentaire de nos efforts, de nos valeurs, de ce que nous voyons dans le monde? Et combien justement ce passage de la parole est clair que le salut, il est dans le Seigneur. Qu'on est amené à avoir ce choix radical de savoir que c'est en lui et en lui uniquement que nous sommes sauvés. Autre question pour nous, suis-je inquiet, car je pense peut-être être comme ces personnes qui ont goûté, qui ont été éclairées, mais qui sont tombées? Si je me pose la question, c'est bon signe. C'est que le Seigneur est en train de travailler mon cœur. Si je me pose la question, c'est bon signe. Ça veut dire que le Seigneur est en train de pouvoir aussi, justement, me montrer ce chemin en Jésus-Christ. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à aller vers des personnes matures dans leur foi, aller vers les responsables de nos églises, aller vers une personne de confiance pour pouvoir le partager avec cette personne, pour pouvoir le dire « voilà où j'en suis, je veux en savoir plus, je ne veux pas m'arrêter là » et se mettre devant le Seigneur aussi et le prier pour ça. « Seigneur, éclaire-moi, je veux avancer avec toi. » Une autre question que cela nous amène aussi dans les applications pour nous, c'est « comment vais-je plus loin dans ma compréhension de Dieu ?» Au-delà des bases que j'ai, comment est-ce que je suis amené à mieux comprendre ce qu'il a fait, ce qu'il accomplit, ce que sa parole dit, parce qu'il y a des passages de la parole qui sont plus difficiles. Comment je m'assure de pouvoir avancer dans ma compréhension de qui Dieu est ? Suis-je maintenant à me dire que je n'ai pas besoin de grandir dans ma compréhension de la parole de Dieu ? Il y a un petit péché d'orgueil, là, pas loin. Mais il y a surtout le fait de se dire, « Oui, Seigneur, on veut se repentir de cela. » Et on veut profiter des occasions multiples que tu nous donnes de pouvoir avancer dans la connaissance de ta parole. Et je voudrais nous interpeller sur ce mois de novembre par rapport aux formations bibliques qui ont eu lieu sur le livre des Hébreux. Où certains ont pu venir, d'autres n'ont pas pu. Chacun devant le Seigneur pourra justement se positionner ou réfléchir par rapport à cela. Mais quelle occasion merveilleuse, ensemble, de pouvoir ouvrir la Bible, ouvrir la parole de Dieu, aller un peu plus loin dans ce qu'il dit. Parce que sur le temps de prédication, c'est plutôt restreint. Mais d'avoir eu ce temps de creuser la parole ensemble, de nous interroger sur le Dieu qui parle, de nous interroger sur la révélation de Dieu donnée à Moïse et comment Moïse nous permet de voir au travers de ce qu'il a fait, qui Christ est. Et comment le Seigneur nous appelle à entrer dans son repos et ce repos qu'il a voulu pour nous. Je nous interpelle par rapport à cela. Dans le programme de la vie d'Église, donc on a ce désir de pouvoir donner ces dates suffisamment tôt. Et je nous interpelle par rapport au fait qu'en tant que communauté, nous puissions nous retrouver. Certes, on peut trouver d'autres informations et d'autres formations qui existent, qui sont bien. Attention, sur Internet, il y a des biens et il y a des moins biens. Mais combien de pouvoir le faire aussi en communauté nous permet de grandir ensemble, de nous affermir dans notre foi, dans le Seigneur. De pouvoir, dans ce que nous sommes amenés à vivre, manifester l'amour, manifester l'espérance et manifester la foi que nous avons en Dieu. L'amour de qui il est, l'amour de sa parole, l'amour de nos frères et sœurs, l'espérance de savoir que nous lui appartenons, qu'un jour nous serons dans sa pleine présence, sachant que dès maintenant nous avons cette possibilité de pouvoir vivre déjà cela. Et cette foi de savoir que nous pouvons lui faire confiance et en lui, nous sommes amenés à pouvoir être des adultes dans la foi, à pouvoir chercher toujours plus Christ dans nos vies. Je vous invite à prier. Seigneur, nous nous mettons devant toi et nous te bénissons pour ta parole qui nous interpelle, qui nous avertit. Merci parce que tu as ce désir de nous avertir aussi par rapport à notre compréhension de qui tu es, par rapport à notre marche, par rapport au risque aussi, pour si nous sommes amenés à être éclairés par qui tu es, à être éclairés et ou à goûter qui tu es, de ne pas avancer dans cette possibilité de pleinement saisir ton cadeau parfait en Jésus-Christ. Et Seigneur, nous te prions qu'au travers de cette interpellation, comme tu as aussi interpellé les destinataires de l'époque, nous puissions tout simplement nous mettre devant toi et avoir ce désir de nous dire « Oui Seigneur, nous voulons grandir en toi. Nous voulons être ces personnes qui ont saisi ta grâce, ces personnes qui aident les frères et sœurs ou d'autres personnes qui ne te connaissent pas encore à avancer dans leur compréhension de qui tu es. Être ces personnes qui souhaitent être matures dans leur connaissance et dans leur compréhension de qui tu es. Et être ces personnes tout simplement qui ont le désir de refléter qui tu es avec cette ferme assurance que nous t'appartenons. Parce que ton esprit dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et nous te bénissons, Seigneur, pour cela. Amen.